7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la parole est aux familles monoparentales, maman solo, papa solo. En France, près de presque 3,5 millions d'enfants maintenant sont élevés soit par leur mère, soit par leur père, mais ce sont surtout des femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Il faut alors gérer la scolarité, les maladies, les chagrins, les conflits, et la journée du parent solo est parfois interminable. Et puis, il y a bien sûr les problèmes financiers quand le conjoint ou la conjointe refuse de contribuer à l'éducation de ses enfants. Les voisins, les voisines, si vous vous sentez concernés, dites-nous comment vous vivez cette situation familiale de maman solo, papa solo. Qu'est-ce qui vous donne le courage d'affronter un quotidien pas toujours facile? Quelle solidarité surtout autour de vous? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Surtout appelez-nous dès maintenant. C'est aussi le téléphone WhatsApp, donc appel gratuit. Ne postez plus de messages vocaux puisque l'émission en direct a démarré. On a envie de dialoguer avec vous de vive voix. Vous pouvez par contre poster des messages écrits si vous ne souhaitez pas témoigner en direct. Nos invités dans le studio, Laure Skoutelski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée nationale de l'association Parents Solo et Compagnie, qui est un réseau d'entraide à l'échelle nationale. Vous nous expliquerez comment ça fonctionne et surtout ce que ça apporte aux mères et aux pères seuls. Valérie Roumanoff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hypnothérapeute de profession. Et puis vous avez publié Parents Solo, avec ou sans l'aide de l'autre parent, élever ses enfants avec zen et bienveillance. Ça a été votre situation à vous?
Oui, d'abord. Tout à fait.
C'est pour ça que vous avez eu envie d'écrire le livre?
Oui, parce que quand je me suis retrouvée dans cette situation, j'ai vu que des choses assez déprimantes sur le sujet et je me suis dit que ce serait bien de changer de regard, de changer un peu de point de vue.
J'espère que j'ai pas fait un tableau trop déprimant, mais forcément, vous savez, les journalistes s'intéressent aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Alors, évidemment, appelez-nous pour nous parler de vos problèmes, mais pour nous parler aussi des bons côtés et des belles découvertes aussi que l'on peut faire dans sa relation avec ses enfants quand on est le seul référent pour son enfant ou ses enfants. On sera aussi en ligne au Canada avec Awa Lital, qui est sociologue d'origine sénégalaise à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa au Canada. Et tout de suite, un message WhatsApp de Firmin à Libreville, un papa célibataire.
Le matin, il faut se lever tôt, préparer l'enfant pour aller à l'école et aller le chercher à midi. Et parallèlement au travail qui m'attend, quotidiennement, je ne m'en sors plus bien. Parfois, je suis embrouillé. Il faut suivre l'enfant à la maison, préparer. Et je passe par là pour dire qu'il est difficile pour un papa s'en sortir avec un enfant. Par contre, la femme s'en sort mieux parce que pour elle, c'est une routine. Par exemple, se lever tôt le matin, le laver, l'apprêter pour l'école, apporter le petit déjeuner. Se rappeler quand il dit qu'il faut aller le chercher. Parfois, j'oublie d'aller le chercher à midi et c'est le voisin qui fait ce travail à ma place et ça devient gênant pour lui. Donc, ça nous pousse à chercher une nounou pour l'enfant et là, ça donne droit à des dépenses imprévues.
Voilà, c'est vrai que les papas sont plus débordés quand ils sont seuls avec leurs enfants que les mères. Qui sont très minoritaires, les papas seuls.
C'est une question d'habitude, en fait. Il a raison, ce papa. Les femmes, elles ont la routine. Elles sont déjà au point, en fait, quand elles se séparent souvent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en couple comme des parents solo, en quelque sorte. Donc, quand la séparation arrive, finalement, certaines femmes sont déjà habituées à s'en occuper toutes seules. Après, bien sûr, ça s'apprend. Hein, tout le monde peut apprendre.
Je vous ai vu sourire.
Oui, parce que... Il y a une thèse qui est sortie assez récemment sur les papas solo, en tout cas en France. Hein, moi, je parle de ce que j'ai un peu, que je connais un peu plus. Les pères solo sont vraiment, d'après cette thèse, des mamans comme les autres. Alors effectivement, il y en a qui ont, par culture, par habitude et partout, moins d'entraînement. Mais ils s'y mettent assez rapidement et ils sont confrontés aux mêmes difficultés et au même plaisir aussi d'élever leurs enfants.
Les papas solo sont des mamans solo comme les autres. Voilà la formule à retenir pour l'émission, en tout cas très minoritaire dans un pays comme la France. On est à peu près à plus de 80% des parents seuls avec enfants sont des femmes. On donne la parole à une maman solo qui nous appelle d'Abidjan en Côte d'Ivoire au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Corinne.
Ah, les deux sont présentables à Debra. Oui, bonjour madame.
Oui, bonjour Corinne. Comment allez-vous?
Je vais bien, merci.
Mais je vous pose la question. Parce que, mais très bien et très bonne année à vous surtout. Hein, la meilleure année possible. Vous êtes maman de deux enfants, 12 et 16 ans, que vous élevez complètement seule, Corinne ?
Oui, exact.
Alors, comment ça se passe ?
J'ai commencé à les élever seuls depuis qu'ils avaient respectivement 4 ans et 8 mois.
Ouais.
Maintenant, ils ont 12 ans et 16 ans.
Ouais. C'était pas un choix de votre part ?
Ça se passe. Non, c'était pas un choix, ça m'a été imposé. Je me suis retrouvée avec le père qui est totalement démissionnaire, donc il fallait assurer toute seule. Quoi.
Quand vous dites démissionnaire, qu'est-ce que ça veut dire exactement, concrètement ?
Ça veut dire qu'il ne veut rien payer, il ne veut pas payer, il ne veut pas les habiller, leur acheter des jouets, des chaussures, l'école, les coutures, mais complètement rien. Quoi.
Donc vous êtes entrepreneur et c'est vous qui gérez tout, qui payez tout et qui, en même temps, jouez ces deux rôles, la maman, le papa, ou vous êtes d'abord une maman ? Comment vous vous voyez dans cette relation avec vos enfants ?
La maman et le papa. Oui. Je fais les deux. Oui. Je joue les deux rôles.
Oui.
Au départ, ça a été difficile. Bon, j'ai déprimé, ça a duré 2 ans. Et puis après, je me suis ressaisie parce que je me suis dit, moi, j'ai choisi le monsieur qui n'assume pas. Mais les enfants, eux, n'ont pas choisi leurs parents. Donc, il faut que ça se passe bien pour eux. Et donc, j'ai commencé à les gérer toute seule. Et ça va, maintenant, ça va. Et bon, la difficulté que j'ai eue ici, c'est que quand vous demandez à quelqu'un de vous aider avec les enfants, et souvent, ils ont deux questions désagréables qu'ils vous posent. Il est où le monsieur qui t'a fait les enfants ? Ou bien ils te posent la question, il fallait bien choisir. Donc, pour éviter ces frustrations, parce que ce n'est pas de ça que j'ai besoin, donc je demande tout service, je gère avec mon chauffeur, et puis comme on peut, quoi.
Ça veut dire que le regard de la société sur vous, c'est d'abord le regard d'une femme qui s'est mal débrouillée à la base, hein, le regard sur une coupable, d'une certaine manière.
Ça, c'est d'autant plus culpabilisant. C'est d'autant plus culpabilisant et puis ça fait mal. Donc, moi, je me suis dit personnellement, je ne veux plus demander service. Je ne sais pas de ça que j'ai besoin. Quand je viens demander service, j'ai besoin d'un coup de main, pas de ce genre de phrase. Donc, je ne demande plus.
Et en même temps, vous n'êtes pas la seule. Hein, en Côte d'Ivoire, il y a énormément de mamans seules. Est-ce qu'il y a une entraide entre mamans seules ou ce n'est pas précisément ce type d'entraide-là que vous pouvez avoir ?
Bon, moi, j'ai essayé avec une dame, mais elle était en mode déprime. Le monsieur, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Ouais. Et moi, c'est pas ce dont j'ai besoin. J'ai décidé de me libérer complètement par rapport à cette situation. Et de dire, désormais, tu es seule face aux enfants. Il faut gérer, il ne faut plus rien attendre de lui. Comme ça, je n'ai pas de surprise désagréable. Et avec elle, il n'a pas fait ça, il devait faire ça. Donc, j'ai tout de suite arrêté parce que pour moi, ça me ramenait en arrière. Donc, je n'ai pas continué.
Ouais. Intéressant, Corinne, ce que vous nous dites. Est-ce que le réseau d'entraide, c'est aussi parfois le revers de la médaille, ou plutôt à double tranchant, c'est-à-dire qu'effectivement, je vous pose la question lorsqu'hôtel ski, c'est que quand on s'entraide, quand on est plusieurs dans la même galère, c'est de se retrouver parfois tiré par le bas par ceux qui ont le moral au plus bas précisément.
Justement, comme dans un groupe d'entraide, les gens ont des situations diverses, et y compris par rapport à ce que vient de dire Corinne, c'est ça ?
Oui.
La période, et puis là j'en parle avec notre collègue ici, Valérie, il est clair que, moi, de ce que j'ai compris, alors très précisément, moi je ne connais pas la situation à titre personnel, donc je ne peux que parler de tout ce que j'entends dans les rencontres et dans les échanges. Il y a toujours une période de déprime après la séparation. C'est un cycle absolument normal. Y compris, il ne faut pas oublier que dans les parents solos, il y a des veufs et des veuves. Donc on peut imaginer que la déprime prend des proportions considérables. Mais une fois cette période passée, la plupart du temps, les gens se reprennent. C'est exactement ce que dit Corinne. Donc, l'enjeu du groupe, c'est que ce soit justement des gens qui aient passé ces situations-là et donc qui tirent vers le haut ceux qui, justement, sont encore dans cette période de déprime. Donc, a priori, sauf à faire un groupe d'entraide de parents qui viennent juste de se séparer, ce qui est quand même assez rare, il faudrait le chercher.
Il faut s'appuyer sur ceux qui s'en sortent le mieux,
finalement. Exactement, hein, c'est ça, il faut une diversité. Il faut une diversité qui fait que, justement, ça rebooste.
Ouais, ce que dit Corinne, c'est exactement ça. C'est-à-dire, à partir du moment où elle a décidé que maintenant, elle allait assumer les choses, et ben, tout devient beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'on se raconte. Si on se dit, comme la personne dont elle parle, c'est la faute de l'autre, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, et qu'on reste dans ce système-là où on se sent mal, et ben, tout va devenir difficile, tout va rester difficile. Et à partir du moment où on change de point de vue sur la situation, en disant, bon, elle est comme ça, la situation, je ne l'ai pas choisie, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Et c'est ce discours-là qu'on va se tenir à soi-même, ou avec d'autres si on a la chance d'être dans un groupe, et ben qu'on va pouvoir justement faire surface et puis les choses vont s'améliorer.
Est-ce qu'aujourd'hui, Corinne, vos enfants qui ont 12 et 16 ans et qui donc ont été élevés vraiment seuls avec vous depuis leur plus jeune âge, est-ce qu'ils ont un contact avec leur papa ?
Oui, ils ont un contact avec eux. Il est musulman et moi je suis chrétienne, donc ils le voient pendant la fête des musulmans. Mais bon, voilà, ça c'est pas par rapport à lui seul, je leur ai donné un réflexe. Je ne veux pas, je me suis dit, moi, j'ai subi avec lui. Donc je ne veux pas que mes enfants subissent. Donc ce que je leur dis, vous allez chez lui, peu importe que ce soit chez lui ou bien chez quelqu'un d'autre, ne subissez pas. Si vous ne vous sentez pas bien, vous m'appelez, je vous remets dans vous, prenez un taxi, vous venez, je paye, ou je viens vous chercher. Pas question de subir. Voilà, je leur apprends à se défendre, mais qu'est-ce qu'ils subissent?
C'est ça, oui. Donc vous êtes aujourd'hui dans une situation très au clair avec vous-même, avec le recul. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé et quel message vous feriez passer aux voisines ou aux voisins qui nous écoutent d'ailleurs, donc qui sont dans cette situation de parents célibataires?
D'accord. Ok, le message que moi je veux faire passer, ça dit qu'il faut faire très rapidement le deuil du monsieur ou du conjoint qui est parti. Et après, il faut penser aux enfants. Bon, comment faire pour qu'ils soient équilibrés, se battre. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, mais ce n'est pas impossible à réaliser. OK? Donc, c'est ce que je peux dire, quoi. Et puis, apprendre aux enfants, faire profiter aux enfants de ces erreurs. Moi, par exemple, j'ai subi. Donc, je dis, les enfants ne subiront plus. Ils ne subiront personne. Donc, c'est un peu ça. Je leur parle. On vit, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et moi aussi, Donc, ça se passe bien avec eux. Ils sont heureux d'être avec moi. On se comprend, on se parle.
Merci Corinne, en tout cas, de nous avoir appelé. Très bonne journée à Abidjan. Et puis, bravo aussi pour votre courage, parce que il faut quand même le dire. Hein, c'est quand même une situation qui est difficile à la base. Valérie Romanoff, Laure Skoutelski, il y a un moment donné où tous les témoignages le disent, il faut se retrousser les manches et puis il faut être dans l'action permanente.
C'est-à-dire qu'une séparation, déjà, c'est difficile en fait, quand on perd quelqu'un, que ce soit comme vous disiez, parce que la personne, elle meurt ou parce qu'elle s'en va. C'est difficile de perdre quelqu'un qu'on aime, parce que normalement, enfin, a priori, si on s'est mis avec et qu'on a fait des enfants, c'est qu'on aimait cette personne. Donc cette perte-là, elle est difficile. Après, le fait d'avoir des enfants fait qu'on ne peut pas en quelque sorte se laisser aller sur la pente de cette dépression qui est engendrée par cette perte. Donc il faut en effet se retrousser les manches, comme vous dites, mais quelque part, ça aide aussi à pouvoir surmonter les choses, à pouvoir passer à autre chose. Et comme le disait Corinne, c'est possible. C'est possible de le faire. Et après, elle a appris elle-même, elle disait, je ne veux plus subir. Et donc cette séparation, quelque part, lui a permis d'évoluer, lui a permis de grandir, lui a permis d'apprendre des choses et de transmettre ce qu'elle a appris à ses enfants. Mmh. Donc ça peut être quelque chose de positif après, avec le recul.
Si je peux continuer, je confirme totalement, et d'ailleurs le profil de Corinne, c'est le profil de 90% des parents solos, père ou mère. C'est-à-dire que, pour les mêmes raisons que vous venez d'évoquer, Valérie, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de déprimer. Ils ne peuvent pas le faire, donc c'est des gens qui sont, moi, qui ça m'a énormément surprise. Encore une fois, hein, je ne connaissais pas la situation à titre personnel. C'est un type de population, de public ou de gens, enfin en tout cas, hyper dynamique, hyper actif, très énergique. Trop des fois.
Pourquoi vous dites ça?
Trop des fois, c'est-à-dire c'est des gens qui
pour pas tourner en boucle sur sa propre histoire.
Y compris par rapport à l'image qu'ils veulent renvoyer. Ah. Donc, ils se fixent des exigences, des objectifs extrêmement élevés. Y compris, moi, j'ai entendu dans les groupes, justement, des gens dire aux autres, mais écoutez, non, mais calme-toi, si le ménage n'est pas fait, c'est pas grave, t'es pas obligé d'être parfaite dans tous les aspects de ta vie, parce que là, du coup, on arrive au burn-out, et le burn-out des parents solo, c'est pas lié à la déprime, c'est lié au fait qu'ils se mettent une pression extraordinaire, pression qu'ils se mettent, y compris à cause du regard de la société.
C'est ça, justement, parlons-en du regard de la société, des difficultés aussi dans l'insertion professionnelle, parce que quand on est seul et que si on n'a pas la chance d'avoir un conjoint qui paye une pension alimentaire suffisante, on en reparlera, parce que c'est vrai aussi, il faut le dire, que c'est le premier des facteurs de pauvreté aujourd'hui, hein, d'être seul avec des enfants et pas de pension alimentaire. Est-ce que dans ces cas-là, comment on fait par rapport au regard de la société, par rapport à ces difficultés matérielles, Laure Skoutelski?
Alors, très objectivement, c'est moins le regard de la société que le regard des institutions. Et surtout sur la façon dont les institutions se disposent pour faciliter la vie des parents solos. Je reprendrai le témoignage de Jean Viard il y a quelques jours sur France Inter expliquant que la situation des parents solos et des mères solos était absolument insupportable et scandaleuse en France, le statut qu'on leur reconnaît. C'est-à-dire que là, le rapport à l'emploi est un parcours d'obstacles permanents. Soit vous êtes dans des basses qualifications et donc vous êtes dans du précaire, avec des horaires précaires.
Les mamans solos sont plutôt moins qualifiées hein, d'ailleurs que la moyenne.
Hein. Oui, mais que ce soit un père ou une mère. Quand vous avez des horaires décalés d'aide-soignante, par exemple, et que vous avez un enfant de plus de 6 ans, donc c'est-à-dire que vous n'avez plus droit à aucune aide pour la garde des enfants, ni de l'allocation familiale, ni de défiscalisation. Donc tout ce qui vient qui est nécessaire, si vous voulez, pour garder un enfant, disparaît totalement.
Et vous travaillez en horaires décalés, comment on fait ?
Eh bien, vous ne travaillez pas, et vous restez au RSA. Très concrètement, moi j'ai eu le cas de plusieurs personnes me disant... Voilà, ma fille a 7 ans, il est hors de question que je la laisse jusqu'à minuit le soir, 2 fois par semaine, à la maison. Je n'ai pas les moyens, je n'ai aucune aide pour la faire garder. J'ai mon diplôme d'aide-soignante, que je viens de terminer. Donc en plus, c'est des gens qui se remettent au travail.
Qui seraient aptes à l'emploi.
Mais
qui ne peuvent pas travailler.
Et qui refusent des offres.
Il manque un maillon, en fait, dans l'aide sociale.
Il manque le maillon parce qu'on estime en France qu'à partir de 6 ans, certainement, un enfant est complètement autonome. Il peut se garder tout seul. Donc il n'y a plus aucune aide. Et c'est un problème majeur pour les parents solos. C'est le soutien à la garde d'enfants, qui fait que dans les plus basses qualifications, on se retrouve à faire ces choix-là. Et même quand on monte un petit peu plus, donc on est largement au-dessus du seuil de pauvreté, quand on est dans des situations compliquées au travail où l'employeur ne facilite pas la vie, que vous avez 2 enfants qui ont plus de 6 ans, donc plus aucune aide pour la garde d'enfants et la prise en charge, y compris des activités périscolaires, hein, parce que c'est aussi ça, dans les aides, c'est pas la CAF, mais au niveau de la défiscalisation.
La caisse d'allocation familiale.
Et bien, à un moment, vous vous posez la question, est-ce que je reste dans l'emploi ou pas?
Alors, bien sûr, il y a eu l'agence de recouvrement des impayés qui a été créée il y a 2 ans, on va en parler, lorsqu'un père apparent ne verse pas la pension alimentaire fixée par le juge après une séparation. Et donc, on peut aller jusqu'à la saisie sur salaire, mais est-ce que ça règle forcément le problème? On le voit bien, hein, vivre en étant mère célibataire ou père célibataire, bien que le cas soit beaucoup plus minoritaire, ça n'est pas seulement une question de savoir bien s'organiser. Je crois que vous nous avez bien démontré la situation, Laure Skoutelski. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
Oussim chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI. Aujourd'hui, on parle de ces parents célibataires, maman solo, père solo, évidemment. À plus de 80%, ce sont les femmes qui assument leurs enfants après une séparation, ou ça peut être un choix aussi délibéré, ou un veuvage, bien évidemment, il y a toutes les situations. Alors, on parlait des difficultés financières, mais pas que, il y a aussi le regard de l'employeur quand on cherche du travail. Vous nous appelez pour témoigner au 33 1 84 22 71 71. On a un papa solo qui nous appelle de l'île Maurice. Bonjour Chris.
Bonjour Emmanuel.
Très bonne année à vous, Chris. Vous avez...
Merci à vous demain.
Eh bien, merci en tout cas de nous appeler. Vous avez 59 ans et vous avez 3 enfants. Votre femme est décédée il y a 8 ans, c'est bien cela ?
Exactement.
Ouais. J'ai l'impression qu'on a une petite difficulté sur la ligne téléphonique. Alors, on va prendre Judith. On essaie de vous rappeler tout de suite, Chris. Hein. Judith est en ligne avec nous en région parisienne. Bonjour Judith.
Allô, bonjour. Bonjour les voisins, bonjour les voisines.
Vous êtes une maman solo de 5 enfants ?
Oui.
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 Comment ça se passe ?
Moi, de mon côté, je suis une femme forte. Je m'en sors pas mal. Donc, c'est moi qui souffre plus que mes enfants. Mm-hmm. Je ne l'ai jamais vu avec une souffrance, même à l'école, de notes. Ils sont vraiment épargnés. Je fais le fort de mettre mes enfants à l'aise, en fait. Je dis, l'enfant, c'est une partie de moi.
Oui.
C'est quelque chose que je n'ai pas choisi, je le sais. J'ai raté tout, j'ai raté le mariage, j'ai raté d'autres choses. Alors moi, j'ai mes enfants et j'ai un travail. Mm-hmm. Je m'en sors pas mal. C'est moi qui souffre plus, mais je fais l'effort de faire tout que mes enfants soient épanouis et heureux.
Oui. Vous avez donc 5 enfants de 6 à 21 ans et c'est votre grande réussite, malgré tous ces obstacles et malgré que vous les ayez élevés seuls depuis presque toujours ?
Ah oui, depuis presque toujours, parce que j'ai eu des enfants avec deux papas.
Oui.
Depuis presque toujours. Les aînés, ils n'ont même pas les nouvelles de leur papa, il est resté en Afrique. Mm-hmm. Et les papas d'ici, quand ils veulent, ils passent un coup de fil, hein, mais quand ils ne veulent pas, ils sont tranquilles. Financièrement, même, n'en parlons même pas. Mm. Et moi, je ne l'embête pas. C'est mes enfants à moi. Je n'ai pas partagé les 9 mois avec quelqu'un.
Ouais.
Je dis les 9 mois, j'étais seule.
Ouais.
Et je vais assumer.
C'est ça. Donc, vous avez finalement un peu rayé d'un trait les papas parce que c'est une façon aussi que ça soit plus simple pour vous, non ? D'une certaine manière, de ne rien attendre, de ne pas être déçu.
Si, c'est ça en fait. Moi, je dis les papas qui sont présents, on peut l'intégrer dans la vie des enfants. Mais
oui.
Les papas qui savent quand ils veulent, c'est de faire souffrir les enfants, au moins se mettre les ponts, en fait. Parce que s'il appelle, il dit viens, il vient pas, et les enfants entendent, c'est une souffrance pour les enfants.
Comment vous faites au quotidien, Judith ? Il y a encore des enfants qui sont petits à la maison. Comment vous faites ?
Au quotidien, par la grâce de Dieu, moi je suis salariée déjà, j'ai un travail, et j'ai mes grands aussi qui m'aident. Et ils déposent, parce que moi je travaille tôt les matins, je commence à 6h30, je finis à 14h30.
Oui.
J'ai un 21 et 18 ans, les grands déposent et moi-même je récupère. Mmh. Donc c'est comme ça on s'est organisé avec mes premières, mes
Donc,
grands.
C'est ça, c'est une organisation millimétrée. Hein.
C'est ça, on s'est vraiment bien organisé, on s'en sort pas mal. Il n'y a aucun souci par la grâce de Dieu, on s'en sort.
Et la solitude, comment vous vivez cette situation de voir finalement tenir tous les rôles ?
Moi, la solitude, il y a des fois, oui. Il y a des fois, je craque quand je suis seule. Mais depuis que mes grands me m'aident un peu. Là, maintenant, à partir de 2018, j'ai décidé de vivre un peu ma vie, de sortir un peu avec les amis. Même dans mon travail, il y a des filles qui s'organisent, on se croise le week-end pour prendre un verre, aller manger quelque chose. Je m'en sors pas mal. Là, ça va pour moi, ça va vraiment.
Restez en ligne avec nous, Judith Lorskutelski. S'accorder des moments à soi, c'est
vital.
C'est vital, mais est-ce que le parent solo s'autorise cela ?
Alors, ce que dit, j'ai pas retenu le... C'est Judith, c'est ça ?
C'est Judith.
Encore une fois, c'est très emblématique de ce qu'on peut entendre de la part de beaucoup de parents solo, c'est-à-dire que l'investissement sur les enfants, et donc le fait que les enfants passent d'abord, ce qui fait que le parent, se débrouille avec ce qui reste, c'est-à-dire en termes de temps et en termes de disponibilité d'esprit aussi, parce que ce n'est pas qu'une question de temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ceux qui ne vivent pas cette situation, la première chose à laquelle, surtout les parents d'ailleurs, qui vivent en couple, la première chose à laquelle ils pensent, c'est au temps et à la question de la vie quotidienne. En fait, les parents solos, la première chose qu'ils mettent comme en avant comme problème, c'est la responsabilité et la charge mentale, en fait. Le poids des responsabilités familiales. Et le fait que tout dépend d'eux, dans les choix par rapport aux enfants, bien entendu. Les choix économiques, mais les choix d'orientation pour le collège.
Prendre des décisions seules.
Et du coup, cette pression dont parlait Laure tout à l'heure, on a en tant que parent en solo, la pression de réussir, comme si le fait d'avoir raté son couple ou d'avoir pas réussi à maintenir la chose habituelle, c'est-à-dire le papa et la maman, fait qu'on doit d'autant plus réussir, que les enfants doivent être d'autant plus heureux, que la maison doit être d'autant plus parfaite pour montrer qu'on y arrive. Et donc, on a une espèce de pression phénoménale qui se met en place et qui fait que souvent, le parent solo, il ne s'autorise pas ces fameuses sorties, cette détente, ce temps pour lui.
Ça veut dire que cette pression aussi, elle retombe aussi sur les enfants qui, du coup, doivent être l'emblème de la maman qui...
Pas forcément, parce que du coup, le parent solo, il va surinvestir ses enfants dans le sens où il va tout leur donner ou tout leur permettre ou tous les... Donc pas forcément, mais par contre, le parent, comme disait, je sais plus quelle personne là qui a témoigné, que c'est elle qui... Elle souffre, mais ses enfants vont bien. Donc c'est ça l'idée, c'est de pouvoir dès le début, dès que possible, se dire, voilà, moi, plus je vais aller bien, moi, plus mes enfants vont aller bien. Donc si je m'autorise des sorties, si je m'autorise d'avoir des copines, ça va faire du bien à mes enfants par ricochet. Et que cette idée-là peut aider justement à prendre du temps pour soi, et ça peut être important. Et pour ça, c'est vrai que demander de l'aide, c'est pas forcément évident, notamment à cause de cette fierté de dire je vais y arriver toute seule, mais c'est important de demander de l'aide justement à ses voisins, à ses voisines, parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part à côté qui peut aider si on lui demande, et si on ne demande pas parce qu'on est fier ou parce qu'on a l'impression qu'on doit y arriver toute seule, et ben c'est plus difficile.
Judith, comment vous vous sentez considérée aujourd'hui ? Par les autres, par la société, par l'entourage.
Je suis très, très félicitée. Et j'avais fait un examen, si je vous rappelais, en 2010. En 2007, j'ai souffert de vieux. On m'a fait un examen à Pitié-Salpêtrière. On m'a dit j'ai un nerf très, très solide. Même les médecins, c'est les médecins qui m'avaient dit ça. Donc moi, je suis très, très félicitée. Comme madame vient de dire, j'ai l'obsession de que mes enfants réussissent, comme je suis celle. C'est moi qui en paye le prix, mais comme je me suis organisée de m'autoriser aussi. Ouais. Je dirais que les autres, elles souffrent parce qu'ils ont le problème de garde aussi. Moi, comme j'ai aussi des enfants majeurs, j'essaie de demander mes grands s'ils ont une sortie ou pas, pour que moi aussi je sorte un peu.
Mais oui, bien
ils
sûr.
Ils sont plus zélés parce que c'est ma responsabilité à moi. Mais ils me comprennent aussi, ils me laissent de temps en temps un week-end aussi pour que je me défoule aussi avec les copines.
C'est merci Judith, en tout cas, diagnostiquée femme forte, si j'ai bien compris. Et bravo à vous, merci de votre appel. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71. On a retrouvé Chris de l'île Maurice. Bonjour Chris.
Bonjour.
Oui.
Merci, écoutez.
Alors vous avez trois enfants, votre épouse est décédée il y a 8 ans, et vous avez toujours tenu à jouer les deux rôles, père et mère.
Oui, parce que notre couple allait très très bien. On était très soudés, ma femme et moi, pour élever nos trois enfants. Ça nous a bien réussi d'ailleurs. Et le moins attendu, c'était sa maladie et son décès. Donc, il a fallu prendre ça en pleine figure. Et le pire, c'est que moi et mes enfants ont souffré en même temps.
Oui.
Mais juste après, il fallait se ressaisir. Pour accompagner justement ces deux plus jeunes qui étaient avec moi, car l'aîné était déjà marié. Et il y a eu beaucoup de sacrifices, dont justement le réajustement de l'emploi du temps professionnel, donner plus de temps aux enfants, non seulement en investissant sur leur éducation, et aussi en investissant dans le temps parental, accompagnement très difficile, parce que c'est deux ados, ma fille avait 15 ans et mon fils 18. Et ça n'a pas été une mince affaire, mais ça a été, parce qu'au bout du compte, on est super content parce qu'on a passé des épreuves. Et pas très faciles, pas très évidentes. Et quand mon fils récemment me dit, papa, tu sais ce qu'on a connu, toi, Robina et moi après maman, c'est vraiment fort parce que ça nous a vraiment créé, si vous voulez, une force à part, un lien beaucoup plus fort qu'avant.
Oui, une relation plus forte, oui.
Ils ont connu aussi les difficultés comme moi. Donc on a passé ensemble, on s'est serré les coudes. Et bien écoutez, au final, vous savez, je suis heureux parce qu'ils ont réussi sur le plan scolaire, mais aussi de l'épanouissement, parce qu'ils s'en sortent. on parle souvent, je reste à l'écoute. Ils sont en France d'ailleurs, ils sont
Chris, on est en train de vous perdre au téléphone, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelé. Comment on fait quand la mère ou le père est seul avec les enfants pour que l'enfant ne devienne pas un confident, Valérie Roumanoff?
Oui, c'est un peu la tendance qu'on a à avoir, c'est-à-dire qu'on se retrouve seul, c'est le seul interlocuteur, donc du coup, on peut en effet le prendre pour un confident, et là, c'est important de se rappeler que c'est un enfant et qu'il reste à sa place d'enfant. On peut justement avoir des confidents autres, ou même écrire, si on n'a personne à qui se confier, on peut toujours prendre un stylo et un papier et se confier à soi-même pour pouvoir laisser son enfant à sa place d'enfant. Donc c'est important de pouvoir faire la différence pour que justement l'enfant ne grandisse pas tout à coup trop vite en prenant la place de cet adulte qui n'est plus là.
Et en même temps, il y a des enfants qui disent « ma situation est injuste, notre situation est injuste ».
Ben oui, parce qu'ils épousent le point de vue du parent. Donc c'est vraiment l'idée de laisser les enfants. Et comme le disait, je crois, Corinne tout à l'heure, moi je ne veux plus être en relation avec le père de mes enfants, mais eux, ils peuvent l'être parce que c'est leur père. Donc de faire la différence entre la souffrance qu'on peut avoir nous, ou la rancœur ou la colère dans le cas d'une séparation, et ce que l'enfant, lui, peut ressentir par rapport à son parent. Et c'est ça qui est difficile, en fait, pour un parent solo, c'est de pouvoir distinguer ces deux choses, ses ressentis à lui et les ressentis de ses enfants.
Laure Skoutelski, c'est quelque chose qui est évoqué régulièrement, ça?
Non, pas tant que ça, parce que comme vous avez pu l'entendre avec les témoignages qui sont, en fait, encore une fois, des témoignages qui ne sont pas du tout exceptionnels, c'est-à-dire cette force, y compris cette estime de soi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les parents solos ont beaucoup d'estime d'eux-mêmes parce qu'ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils vivent, des efforts qu'ils mènent, et parce que c'est très volontaire, très pensé, très mené. Et c'est à ça que servent les groupes d'entraide. C'est justement de pouvoir collectiviser un petit peu cette parentalité. C'est-à-dire de ne pas rester seul avec son enfant, de faire plus. Et je dirais, nous, enfin, on emploie l'expression consacrée, mais il faut tout un village pour élever un enfant. Et donc penser que le fait d'être tout seul, c'est forcément quelque chose qui est insurmontable et impossible, sous-entendu le 2 est le nombre parfait. Ça pose aussi la question de c'est quoi la bonne norme pour élever un enfant.
Ouais.
Et les groupes d'entraide, donc deux parents solos, permettent deux choses. Ils permettent de parler d'une situation qu'on n'ose pas évoquer avec des gens qui ne la vivent pas. Et donc ça, de pouvoir dire, moi en tant que parent solo, je peux parler à d'autres parents solos parce qu'il y a des choses qu'on ne dira jamais aux autres, et ça me fait du bien de le dire. Et c'est là qu'on peut retrouver ce ressourcement. Et puis, ça peut aider aussi, bien entendu, à de l'entraide très concrète. Et surtout aussi, pour répondre à l'action que vous posiez tout à l'heure, on a des témoignages d'enfants qui disent « ben, depuis que maman est dans le groupe d'entraide, alors je ne l'appelle pas comme ça, et ben, elle pleure plus.
Oui.
Et moi j'ai des copains. »
Oui, c'est ça.
Donc il y a vraiment, c'est un rôle, et on le découvre, hein, parce que c'était une intuition forte, basée sur une étude qui a mené Parents Solos et compagnie, mais on le vérifie régulièrement.
L'entraide, c'est aussi une manière aussi de rassurer les enfants, hein, qui voient bien que d'abord ils ne sont pas seuls,
tout
et puis
fait.
Bon, de toute façon, en France aujourd'hui, on va le redire, hein, c'est 20% des familles, hein, qui
tout
sont plus
fait.
De 20% des familles, c'est un chiffre qui continue d'augmenter légèrement, régulièrement, donc voilà, ça ne s'arrêtera pas là. Et bien évidemment, pour les enfants, c'est aussi une façon de comprendre que et le papa ou la maman seul peut trouver une oreille extérieure et donc sortir du tête-à-tête aussi, ou du trio, ou du... Mais c'est clair qu'un parent seul avec une mère seule avec deux ou trois enfants, clairement, elle est en sous-effectif, hein.
Oui, elle est... mais de toute façon, comme on disait tout à l'heure aussi, il y a des gens qui sont en couple et qui sont aussi en sous-effectif par rapport à leurs enfants, parce que les parents travaillent beaucoup, parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'il y a d'autres difficultés.
Allez, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète se part.
On est en ligne avec Rama qui nous appelle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonjour Rama, soyez la bienvenue et bonne année à vous.
Bonjour Fatima de Voisin. Bonne année à tous.
Alors évidemment, on vous souhaite une année pleine de bonheur et puis surtout moins de difficultés, parce que vous avez deux enfants, 4 et 8 ans, de deux papas différents. Et c'est pas toujours simple, hein, notamment avec votre fils aîné, je crois.
Oui, il a toujours tout le temps des questions. C'est compliqué. Il me pose, il a l'âge, il a 8 ans. 8 ans, c'est plein de questions. Tant moi, je travaille beaucoup quand je rentre. Maman, pourquoi ça? Maman, pour ceci? Maman, donc souvent, je suis beaucoup chez les mères avec lui. Je ne sais pas, je vais demander. Je vais demander des conseils aux spécialistes. Comment faire ne pas crier chaque fois quand ils me posent des questions, être sur les nerfs, en fait.
Ouais. Et les questions qu'il vous pose sont des questions par rapport à son père ou sont des questions de vie quotidienne?
Quotidienne, non pas. Son père, c'est rare. Maman, s'il te plaît, il faut nous déposer chez lui. On ne veut pas tout voir. Papa, s'il te plaît, dépose-nous chez lui. Il dit, j'ai pas le temps. Maman, pardon, fais à cause de Dieu, on va aller le voir juste un peu. Il dit, vraiment, j'ai pas le temps. Lui, quand je l'appelle, lui veut que je paye le transport, le taxi pour aller le déposer. Et après, lui-même paye son transport pour le venir. Enfin, c'est comme ça.
C'est ça. Ça veut dire que le papa ne contribue pas au financement de l'éducation, hein, s'il vous demande de payer le taxi pour lui amener son fils.
Okay.
Donc, vous êtes le seul interlocuteur de vos enfants. Ça vous pèse. Et c'est bien normal, d'ailleurs, Valérie Roumanoff.
Oui, complètement.
Comment on fait pour éviter la crise de nerfs qui, en même temps, est inévitable, parfois?
Alors, par rapport aux questions, si c'est des questions répétitives ou beaucoup de questions, peut-être que ces questions, elles peuvent cacher une question qui, justement, n'a pas de réponse pour lui. Et peut-être que le fait de parler de la situation ou de parler de son père avec lui ou des questions qui pourraient vraiment se poser pourraient faire qu'il pourrait vous poser moins de questions au quotidien. Parce que des fois, ces questions-là, elles sont juste là pour...
Alors, comment on fait pour expliquer clairement la situation à son enfant, du fait qu'on est seul, sans entrer dans la confidence?
Alors voilà, c'est la vraie question, c'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas mettre de jugement dans cette séparation. La séparation, elle est là, mais elle n'est pas forcément mauvaise, elle n'est pas forcément de la faute de quelqu'un, elle n'est pas forcément... Alors on peut penser tout ça, mais l'idée, c'est d'essayer de ne pas en parler comme ça à ses enfants, de dire voilà, la situation, elle est comme ça, pour l'instant, ton père, il n'est pas là, ou tu ne peux pas le voir souvent, ou voilà, sans mettre de jugement négatif par rapport à l'action, quelle qu'elle soit, du père, même s'il ne se comporte pas bien du point de vue de la mère ou du point de vue de tout le monde. L'idée, c'est que l'enfant, il puisse garder, avoir des réponses simples. Et parfois, quand les enfants ne sont pas du tout en contact avec leurs parents, parce que soit ils sont, comme le disait une personne, démissionnaire, ou soit ils sont complètement absents, ça peut être, par exemple, de faire des dessins à l'enfant en disant, voilà, fais un dessin pour... Est-ce que tu as envie de faire un dessin pour papa? Et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra lui donner, mais on le met dans une boîte, on le garde, tu peux le mettre sous ton lit, et puis peut-être, un jour plus tard, quand tu seras grand, on ne sait pas, tu pourras peut-être le revoir et lui donner ça, pour que l'enfant il puisse avoir ce repère-là, même s'il n'existe pas du tout dans son quotidien.
En dehors de toute tension.
En dehors de toute tension, oui, dans la mesure du possible. D'en parler en dehors de toute tension. Et à ce moment-là, ça peut apaiser justement la tension qui est là parce qu'il n'y a pas ces réponses, ou parce qu'il y a cette incompréhension, ou parce qu'il y a ce sentiment d'injustice, ou de peur, ou de colère, et de pouvoir vraiment dire les choses. Et si on ne peut pas dire ces choses calmement, parce que c'est difficile, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a toutes sortes d'émotions, de dire voilà, pour l'instant je ne peux pas en parler avec calme, donc quand je serai plus apaisée moi-même, je t'en parlerai, mais toi tu peux m'en parler si tu veux, pour que l'enfant puisse aussi sentir qu'il a le droit, qu'il a la possibilité d'en parler si c'est important pour lui.
Awa, Rama, merci beaucoup de nous avoir appelé, le temps presse et on a d'autres questions, et puis surtout je voudrais qu'on donne la parole à Awa Lital qui est au Canada. Bonjour Awa Lital.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes sociologue, vous êtes d'origine sénégalaise et vous êtes à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa au Canada.
Oui.
J'aimerais avoir votre regard, vous avez entendu notre discussion sur la réalité des mamans célibataires en Afrique et plus particulièrement au Sénégal aujourd'hui.
La réalité est très diversifiée. Selon que, par exemple, par rapport à une femme cadre, par exemple, qui a un bon boulot, et une autre qui a bon, des boulots beaucoup plus précaires et tout ça, parce que cette femme qui a des moyens peut faire appel à des aides familiales, ce qu'on appelle communément bon au Sénégal.
Mais donc, vous avez entendu le témoignage au début de l'émission de Corinne. Alors, elle est en Côte d'Ivoire, mais elle disait, bon, elle est entrepreneur, et elle disait, en fait, les premières questions, c'est comment tu t'es retrouvée dans cette situation-là ? Une forme de culpabilité. Est-ce que cette culpabilité demeure au Sénégal pour une femme qui a divorcé ou qui a une grossesse non désirée avec un garçon qui a disparu?
Elle peut être là d'autant plus qu'on a au Sénégal un concept qui dit, bon, j'imagine que c'est la même chose chez les Bambara ou chez les je veux dire en Côte d'Ivoire ou au Mali. Ça veut dire que ce que l'enfant devient, c'est ce que la mère a fait. Donc il y a cette responsabilité, même si vous n'êtes pas divorcé, si votre enfant ne réussit pas, on va dire que vous avez été une mauvaise mère. Alors imaginez-vous que vous soyez seule à élever cet enfant, d'où justement cette tendance à être perfectionniste, que tout aille bien dans ton ménage, que tes enfants ne manquent de rien, etc., etc. Ce qui fait qu'on devient un peu une power woman.
Oui.
Alors, si vous êtes seule avec votre enfant, vos enfants, parce que vous avez divorcé ou vous êtes veuve, c'est un peu plus acceptable. Vous aurez toujours une certaine aide. Mais si vous êtes mère célibataire, par exemple, quelque chose qui est très mal vu, dans une société où 96% de la population est musulmane, bon, chez les chrétiens aussi, qui sont de 3% et quelques. Donc
le divorce existe depuis très longtemps, notamment dans une ville comme Dakar. Mais effectivement, vous avez raison de dire que les épouses se débrouillent pour se remarier le plus vite possible. Ça m'amène à cette dernière question, parce qu'on dit souvent en France que les familles monoparentales sont une situation temporaire. Est-ce que ça correspond à la réalité? L'INSEE a sorti des statistiques, 5 ans en moyenne, où une famille va vivre dans une situation de famille monoparentale, le plus souvent donc une mère seule, Laure Skoutelski.
Alors, là où c'est juste, et moi je, enfin, je pense que la terminologie est bonne, c'est une situation. Par nature, une situation, et c'est pas essentiel, on n'est pas mère solo. Donc, de toute façon, c'est une situation.
Et pas une identité.
C'est pas une identité, c'est ça. Je pense que la meilleure comparaison, c'est un petit peu avec la question du handicap. On est en situation de handicap. Et donc, je vous répondrai, moi, du point de vue de parents solo et compagnie, la raison pour laquelle on se trouve tous dans cette situation et la raison pour laquelle, à un moment, on quitte cette situation, nous importe peu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment on gère la situation et comment on aide les gens qui sont dans cette situation et comment eux-mêmes peuvent affronter cette situation. Parce qu'effectivement, elle est extrêmement diverse. On met sous la terminologie parent solo, et y compris en termes d'aide. Et là, c'est ça, moi, qui m'a le plus surpris en tant que parent solo. À peu près toutes les situations qui font qu'on se retrouve à élever seul un enfant. Que ce soit la mère célibataire, mais la mère célibataire au sens abandonnée à la première échographie, comme on m'a pu me le dire, la mère célibataire qui a décidé de faire un enfant toute seule, le père ou la mère veuf, la séparation, enfin, ce sont une diversité énorme de raisons qui amènent à la monoparentalité. Mais nous, ce qui nous intéresse, donc du coup, parce que c'est là qu'on peut agir et c'est là qu'il faut agir, c'est sur la question de la situation et pas des raisons qui ont fait que, parce que les raisons sont personnelles, extrêmement diverses encore une fois. Et donc ce qui est important de traiter, c'est la situation en tant que telle et donc d'aider les gens qui sont dans cette situation.
À Walital et au Canada, ça peut être une norme comme une autre?
Oui, mais justement, quand, par exemple, une femme africaine est famille monoparentale, d'ailleurs, en Afrique, on ne parlerait pas de famille monoparentale, mais une femme chef de famille, et quand elle est famille monoparentale seule au Sénégal, c'est totalement différent. Parce qu'autant elle peut avoir une aide financière ici au Canada, mais sans avoir l'aide sociale, par exemple des grand-mères et tout ça, autant elle peut avoir une aide sociale en Afrique et avoir des difficultés financières. Donc, quand on dit que c'est pas un état, ça peut être long quand même. Si vous élevez votre enfant de 3 ans à 18 ans, c'est quand même une longueur de vie.
C'est clair que c'est long, et vous posez bien la situation, effectivement, le problème de la solidarité sociale, de la solidarité tout court, c'est pas tout à fait la même chose. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Awa Lital, de si bon matin à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Effectivement, aujourd'hui, on le disait en début d'émission, Laure Skoutelski, il y a par exemple l'aide au recouvrement des impayés qui a été mise en place il y a 2 ans pour les pensions alimentaires. On a entendu quand même beaucoup de témoignages là de femmes, alors certes pas forcément en France, hein, mais qui disent... le conjoint, il est parti, il a disparu, il paye pas de pension, il ne subvient pas aux besoins de l'éducation des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie des problèmes importants ou pas, finalement ?
Enfin, moi, je dirais que la question, c'est pas tellement le conjoint. La question, c'est de savoir, encore une fois, si un parent solo, donc qui se retrouve seul, et donc seul concrètement, c'est-à-dire avec l'absence d'un deuxième salaire, pour élever un enfant... Est-ce que la société, et donc les institutions et les pouvoirs publics, doivent prendre cette situation en considération et trouver un moyen pour aider ces familles? C'est ça la vraie question. Et donc la question, elle est, par exemple, encore une fois, quand vous discutez avec des parents solos qui s'organisent de plus en plus et qui commencent à émettre quelques revendications, une des premières revendications, c'est par exemple que pour les parents solos, eh bien, les allocations familiales soient versées à partir du premier enfant. La deuxième revendication qu'ils ont, c'est que justement, par rapport à ce qu'on évoquait en termes de garde d'enfants, et que pour les parents solos, l'aide donc à la garde d'enfants soit prolongée jusqu'à l'âge de 10 ans.
Valérie Romanoff, à la lumière de tous les témoignages qu'on a entendus, qui sont d'ailleurs pas si différents, quels que soient les pays, on s'en rend bien compte, hein, parce qu'il faut faire face, faire face avec la charge mentale, comme disent certains, et puis aussi l'organisation matérielle, d'assumer tous les rôles dans une même journée. Quels seraient les conseils les plus probants, les plus récurrents que vous avez à donner autour de vous, puisque vous avez écrit ce livre, d'abord à partir de votre expérience, parents solo?
Le conseil, ce serait justement relâcher cette pression, ce désir de perfectionnisme pour mettre ça plutôt au profit de la relation avec ses enfants, pour pouvoir privilégier cette relation sans pression, pour que ce soit plus agréable pour les uns et pour les autres. Et ensuite, de pas forcément assumer les deux rôles, selon dit je suis le papa et la maman. On peut pas être deux quand on est tout seul, donc de vouloir être deux quand on est tout seul, ça rajoute à la pression. Donc dire non, je suis une maman seule ou un papa seul et je me débrouille comme ça et j'ai pas besoin d'être deux personnes en une. J'ai pas besoin de tout réussir parfaitement. Et après, par rapport à la gestion du conflit avec l'ex, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on a eu surtout des témoignages de gens où l'ex n'existait pas, mais il y a des tas de situations où l'ex existe et pose beaucoup de problèmes aux enfants comme aux parents seuls. L'idée, c'est de pouvoir autant que possible sortir de ce conflit, parce que ce conflit n'est pas bon ni pour les uns, ni pour personne en fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir en sortir si possible, le plus rapidement possible, et surtout de mettre les enfants à l'abri de ce conflit, parce que souvent ils sont au cœur de ce conflit. Vous parliez de la pension alimentaire, la pension alimentaire sert surtout à faire exister ce conflit, et ça, c'est soi-disant ça concerne les enfants, mais en fait pas du tout, ça concerne la relation entre les deux ex-conjoints, et c'est pour ça que c'est souvent des conflits terribles à ce sujet-là.
Merci à toutes les deux, Valérie Romanoff, donc vous signez Parents solo avec ou sans l'aide de l'autre parent, élever ses enfants avec zen et bienveillance aux éditions Erol. Merci à vous Laure Skoutelski, déléguée nationale de l'association Parents solo et compagnie, réseau d'entraide à retrouver sur internet. À demain les voisins.